T'as pas fini de ton quartier, là, t'as fait un petit croche à gauche, un petit croche à droite. Ih, ça glisse donc bien. Mais on est habitué. Ouais. Eux autres, puis c'est pour ça que je changerai un peu les règles. On en avait parlé il y a de ça quelques mois. Ils se font octroyer un permis très rapidement. Puis au bout de 6 mois, là, ils doivent aller rencontrer un agent évaluateur à la Société d'assurance automobile du Québec pour voir s'ils savent conduire. Ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. T'sais, tu devrais arriver ici, puis là, ben, hey, salut, j'avais un permis de conduire en Europe. J'aimerais ça conduire aussi au Québec, au Canada. Ben, l'agent évaluateur devrait embarquer avec toi directement.
Exactement. On devrait te mettre en priorité.
Surtout quand c'est l'hiver. L'été, je serais un peu plus lousse sur l'été, mais quand c'est l'hiver, tu prends pas de chance.
Je suis d'accord avec toi à 100%. T'sais, fais juste prendre la première bordée de neige cette année où il n'y avait pas grand gens qui avaient leurs pneus d'hiver, là. On était habitué à conduire sans neige, ça a été catastrophique.
Pendant le temps des fêtes, il y a des gens qui sont venus de la Floride pour fêter avec les gens ici. Puis ils ont le pneu d'été. Quand il neigeait, c'était une catastrophe, ça, la route. Là. Ils prennent pas la peine de mettre des pneus d'hiver quand ils partent de la Floride pour s'en venir ici. Puis je pense qu'ils ont comme une petite grâce là, pendant quelques jours où ils n'ont pas besoin de rouler avec les pneus d'hiver. Mais ça, c'est catastrophique aussi, sur la route. Là. All right, parlant de la route, qu'est-ce qui se passe, Max?
C'est problématique à bien des endroits. Vous le devinerez avec les informations qu'on vous a données dans les dernières minutes. Secteur des ponts, je dirais qu'on est pas mal dans la moyenne pour un lundi. Là. Quelques difficultés pour passer de la rive sud à la rive nord. Par contre, il y a des endroits où on est dans l'anormalité, entre autres 40 Est, dans le coin de Saint-Augustin-de-Desmaures. C'est très difficile au moment où on se parle. D'ailleurs, là, ce serait une sortie de route qui causerait partiellement ce ralentissement-là. Capitale-Ouest, c'est bien, bien jamais entre Beau-Royal et on va jusqu'à Robert-Bourassa. Capitale-Est, d'ailleurs, vers Robert-Bourassa, des complications aussi. Laurentienne Sud, quand tu roules vers la capitale, jusqu'à à peu près Louis XIV, tu vas pogner un certain ralentissement. R4 Sud, dans la normalité, avec entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest, c'est tout rouge. Et de l'autre bord, quand tu vas vers Shannon, bon ralentissement aussi.
All right, dans quelques minutes, Denis Gravel arrivera pour le pit stop. Mais juste avant, on jase avec notre chroniqueur international, David de Chabot. Salut, David.
Salut, salut, ça va?
Ça brasse donc bien dans le monde.
Ouais, ça brasse ses routes en matin.
Il y a des conflits mondiaux. Il y a des conflits entre les États-Unis et le Canada. Il y a des conflits à Minneapolis, là, de ce que je comprends aussi, où un infirmier a été tué dans les dernières heures. Ça a laissé personne indifférent. Qu'est-ce qui fait que autant au Canada qu'aux États-Unis, on parle de ce qui se passe avec le ICE?
Bien, écoute, il y a un volet que, on va se le dire en français, là, ça génère beaucoup d'attention, ces nouvelles-là. C'est choquant. Donc là, ça se retrouve beaucoup dans les nouvelles. Donc là, ça fait parler le monde. Donc là, c'est une nouvelle qui spin sur elle-même parce que c'est important ce qui se passe là. Mais tu sais, au Québec, il y a des nouvelles locales qu'on couvre beaucoup moins à cause de ça parce qu'on focus beaucoup là-dessus.
Oui.
Ça, on est d'accord là-dessus, la prémisse initiale. À mon sens, ce qui fait que ça dérape autant que ça, c'est que ça a toujours été, là, ICE, là, il y a bien des gens qui nous le rappellent à chaque fois qu'on pense là-dessus. 2003, George Bush dans le temps, post 9/11, là, les attentats avec les avions, l'Irak, puis après ça, Barack Obama en exporté, c'est pas le bon mot, a exilé beaucoup plus de monde que n'importe quel autre président. Donc, tous ces arguments-là, on les entend, puis on se fait dire, ouais, mais là, c'est pas pire qu'avant.
Mais ça se faisait pas avec une police voyou. Ils ont l'air d'une gang de voyous des rues, sont masqués, sont pas tous habillés pareil. Plutôt que d'arriver discrètement dans des endroits pour faire des arrestations puis procéder à des vérifications, ils courent après les enfants, ils courent après les femmes, ils courent après les gars dans la rue. Puis quand il y a des manifestants qui arrivent pour les achaler, ben ils leur font face, tout simplement. T'sais. Puis c'est... Il y a des gens qui sont d'un bord et de l'autre aux extrêmes. Moi, je me situe un peu plus au centre. Tu sais, si une police se respecte, là, ça commence par le chef de police. Puis je vous invite à aller voir l'allure du chef de police du ICE, là, avec son beau gros paletot. Là. T'as-tu l'as-tu vu?
Oui,
ouais,
il a l'air d'un personnage.
Il a l'air d'un nazi.
C'est ça.
Il a de l'air d'un personnage de 1939.
Ah oh, oui, on l'aurait mis en Allemagne à côté d'Hitler.
Puis de permettre aux policiers du ICE d'être masqués, il y en a qui vont dire, ouais, mais Yann, c'est parce qu'ils peuvent peuvent avoir des représailles. Bon. Vous savez quoi? Les policiers à la Ville de Québec, là, ils arrêtent des centaines de personnes par année, puis sont pas masqués. Il y a des policiers aux États-Unis, des enquêteurs qui arrêtent des gens extrêmement dangereux puis sont pas masqués. De permettre à des manifestants d'être masqués, puis de permettre à des policiers d'être masqués, je trouve qu'on n'est pas sur la bonne route pantoute parce que ça donne lieu à du débordement.
Oui, absolument. Puis il y a un policier formé, là, tu sais, je vais prendre l'exemple des policiers du Québec, là, peu importe dans quel corps ils travaillent, là. On dira ce qu'on voudra quand on pogne une étiquette parce qu'on baboune parce qu'on est allé trop vite sur boulevard Le Bourgneuf, là, mais c'est des gens qui sont droits, qui ont étudié là-dedans, puis que dans la vaste majorité du temps, tout est transparent et clair quand ils interviennent. Quand on arrive dans des situations comme ça, avec des personnes qui sont formées 47 jours, on se rappelle, pour le ICE, ils arrivent dans les rues avec un pistolet à la hanche, pas trop formés en emploi de la force. Puis finalement, leur mission, c'est de dire « Trouve-moi des gens qui sont des immigrants illégaux. » Puis le processus pour les trouver n'est pas clair, parce qu'il n'y a pas de mandat, là. T'sais, ils débarquent, là, je veux dire, il faut faire attention à ce qu'on voit sur les photos, pas les photos, mais les vidéos sur les réseaux sociaux. T'sais, Instagram, là, des fois, c'est fait pour générer aussi du clic, mais... Tes voix débarquer dans un Target, ramasse un adolescent, il fait une clé de bras, il casse le bras, fout ça dans le bac du char. Finalement, t'as une autre vidéo que tu le vois qui a été dompé 7 km plus loin en avant du Walmart. Puis là, il est là, puis il braille sur le trottoir. Les gens, tu sais, c'est des choses qui sont choquantes parce que tu dis, c'est pas le due process judiciaire aux policiers qu'on s'attend. Là.
Non, puis tu sais, j'en parlais avec Luc Laliberté. Moi, j'ai déjà vu des agents de l'immigration arriver dans un restaurant. On était assis, ils étaient bien affichés, agents de l'immigration, sont rentrés dans le restaurant, ils ont regardé à gauche et à droite, sont allés dans la cuisine, puis ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans la cuisine, puis sont sortis par la porte arrière s'il y avait eu des arrestations à faire à ce moment-là. Mais là, de voir que les gars sont masqués, qui courent après tout le monde dans la rue, qui se battent avec les manifestants. C'est une police voyou. Puis ce qui me tue encore plus, David Chabot, là, c'est de voir l'attitude de Donald Trump en disant « c'est de la faute des démocrates
ouais. ». Ah ouais.
Faisant pas une histoire politique, là, t'as des policiers qui sont arrivés dans une intervention, s'abrasser. On a vu les images. Le gun du gars, du manifestant, qui avait le droit de porter une arme, a été retiré avant et on l'a tiré après. Tout ce qu'il y a à dire en tant que président, là, c'est je demande est-ce qu'il y a une enquête indépendante puis que justice soit rendue. Pas de souffler sa braise. Là.
Non. Là, la braise est pas mal bien allumée. Puis ce que j'ai hâte de voir, là, c'est que, tu sais, on se parle beaucoup de la Constitution. Là, puis là, ça paraît des fois un peu des grands concepts là, déconnectés de la réalité. Mais là, là, ce qui est attaqué par cette situation-là, c'est évidemment le premier amendement, donc la liberté de parole. Ça a toujours été un peu magané là, parce que, tu sais, quand tu dis quelque chose qui dérange le pouvoir, ben, tu te fais un peu brasser. Le deuxième amendement, par exemple, ça, c'est quasiment religieux aux États-Unis, on le sait. C'est-à-dire le droit de porter des armes. Là, chacun des États a ses règles particulières. Est-ce que tu peux le porter visible ou non visible? Dans ce cas-ci, il avait pleinement le droit de le porter concealed, donc caché. Puis là, ben finalement, le président a dit qu'est-ce qu'il faisait avec une arme. Il était, je ne me souviens plus exactement comment il l'a phrasé, mais il a attaqué directement le fait qu'il y ait une arme. Ce citoyen-là, puis c'est une arme offensive, puis nanana.
Ben, aller dans une manifestation avec un gun puis deux chargeurs, c'est jamais une bonne idée.
Ben, je suis d'accord avec toi sur le principe, mais c'est pas illégal dans le sens de la loi puis de la Constitution. Puis là, il a attaqué ça directement, puis là, ça va devenir un point qu'il va ramener souvent, c'est-à-dire que t'as pas le droit d'avoir des armes dans les manifestations. Puis évidemment que je suis d'accord avec toi, t'es pas censé amener un gun pour aller manifester, mais là, la situation est tellement tendue que les gens, j'imagine, qu'ils se préparent au pire, puis là, ben, clairement, il avait raison. Là, on voit la renaissance des Black Panthers. Là, je sais pas si vous avez vu ça aller, mais dans les années 60, les Black Panthers étaient très actifs. C'était un groupe semi-militaire, armé, milicia, civil, qui défendait évidemment le droit des personnes noires à l'époque. Un contexte qui était très chaud là, dans les années 60, on le sait. Là, on voit ce mouvement-là revivre. Là. Donc là, ça va devenir des espèces de milices de protection de quartier. Est-ce que c'est juste une anecdote? C'est-tu un grand mouvement qui va se développer au pays? Moi, ma vraie crainte dans cette situation-là, c'est que, là, on le voit au Minnesota, la police locale, puis le gouverneur, puis même la garde nationale dit « Hey, là, il faut protéger notre population du ICE. » Donc là, est-ce qu'un jour, probablement non, de façon pas volontaire, là, mais il y a un policier qui va sortir son gun pour défendre un citoyen parce que là, il y a quelque chose d'illégal qui se passe avec le ICE, puis là, ça va se tirer dessus.
Ouais, d'ailleurs, avec les policiers locaux racontent que la scène où cette arrestation-là, suivie du décès de l'infirmier, s'est produit, a été altérée par la police ICE. Là. Donc, on a fait exprès pour tasser des preuves quand les policiers locaux sont arrivés pour enquêter. Donc, on est vraiment rendu à une strate très élevée là, dans la confrontation de ces deux corps policiers-là.
Moi, c'est ça qui me fait le plus de crainte. Parce que quand le gouvernement attaque le gouvernement, c'est là que ça va vraiment mal. On n'est pas rendu là. Je veux pas vendre de la peur à tout le monde, là, mais tu sais, pour moi, c'est ça le vrai trigger de surveillance en ce moment. Ça, puis dans 6 mois, les midterms, voir comment ils vont être traités, puis comment est-ce qu'ils vont être libres de voter ou pas, là, puis que ça va être organisé. Là.
C'est hallucinant de voir l'attitude de Donald Trump là-dessus, qui en fait une affaire politique. C'est une police qui agisse comme des voyous, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que là, on crée des emblèmes. Là. Tu sais, George Floyd est un emblème. Là. Ce qui s'est passé, parce que c'est au même endroit. Hein? Oui. George Floyd, là, quand il s'est fait tuer par le policier qui a pogné quoi, 18 ans de prison?
Derek Chauvin, ça?
Derek Chauvin, il a pogné autour de 18 ans de prison. C'était à cet endroit-là, puis il est comme devenu un emblème. Mm. Là, il y en a deux. Là. Il y a la dame qui était dans son véhicule.
22 et demi.
C'est 22 et demi. Qui a heurté un policier, puis le policier l'a descendu. Puis là, il y a cet infirmier-là qu'on dit qu'il voulait changer le monde, qui a tenté d'aider une femme qui était armée. Il avait le droit de l'être. Il était pogné dans un échauffouré. Puis sur les vidéos, on voit clairement un policier retirer l'arme. Ouais. Ouais. S'en aller avec l'arme, puis on entend un genre de gun, 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 puis là, ça a fait 9 à 10 coups de feu. Je sais pas, il était combien de policiers à tirer, je pense qu'il était 2. Là,
parce qu'il y était plusieurs policiers autour, là, on en voit un qui s'en donne à cœur joie à coup de poing.
Ouais, puis tu sais, une fois que le gars il est à terre, puis il y en a 2 dans le corps, t'es-tu obligé de décharger ton arme au grand complet? Là?
Ouais, parce que encore une fois, l'emploi de la force, on en parlait tantôt, c'est de limiter la menace. Donc à un moment donné, quand la menace est plus active, c'est-à-dire que le gars il est à terre, il a 2 balles dans le corps, puis il bouge plus. C'est assez, là.
Est où éradiquer la menace, puis la différence? Est où entre éradiquer la menace, puis commettre un crime?
Ben, dans le cadre d'une intervention policière, c'est très, très normé, tout ça, là. Mais évidemment, je ne suis pas spécialiste pour te le dire, mais dans ce qui s'est passé là, ça c'était un peu plus flou.
Ça tombe bien, Roger Ferland va nous en parler aux alentours de 8h20.
Ouais, ça, c'est quelqu'un de lui jaser. Sinon, retour sur Davos, t'étais pour ou contre le discours de Mark Carney?
Je suis très favorable à cette prise de position-là. Avec un petit peu de recul, c'est vrai que le timing avec la renégociation de l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord qui s'en vient, là, c'est plus l'année-là, c'est la CEUM, là, mais là... Ça l'a fâché Trump, mais c'est dans quand même quelques mois de tout ça.
C'est ce que je disais, que il me semble que c'était bizarre de voir un Carney aller s'associer avec les Chinois parce qu'il était en litige avec Trump. Puis ce que Frédéric Boisvert nous a dit ce matin aux alentours de 6h45, puis by the way, l'entrevue va être disponible sur l'application Boulevard ou encore sur le site web tantôt, c'est que Trump avait félicité à ce moment-là Carney d'avoir été en Chine, puis négocier des trucs avec les Chinois, puis tenter de se réconcilier un peu, ce que Justin Trudeau avait détruit. Là. Trump avait félicité ça. Là, c'est plus ça. Là. Il s'est fâché en fin de semaine.
Ouais, le paradoxe avec Trump, c'est que ce qu'on comprend, évidemment, on n'est pas physiquement sur place dans la Maison-Blanche, mais c'est que lui-même, instinctivement, il réagit à certaines choses comme ça, parfois positivement, parce que tu as raison, il a sorti de tout ça quand même positif. Quand il a eu le speech de Carney à Davos, il n'a pas réagi tant que ça. Mais il y a des gens autour de lui, par exemple, qui n'ont pas aimé ça. Puis il y a des gens qui lui souffrent à l'oreille. On pense à Stephen Miller, M. Bannon, là, j'oublie son prénom.
David
Bannon. C'est des gens qui sont très, 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 très influents. Puis eux, ça vient les heurter dans leur, on va dire, dans leur système de valeurs. Donc là, Carney arrive puis il dit à tout le monde, « Hey gang, c'est le temps de reconnaître le fait que l'ancien régime, là, où on avait des négociations d'égal à égal, puis on pouvait se parler en adulte, c'est fini. » Maintenant, c'est la loi du plus fort.
Steve Bannon.
Ouais, c'est ça.
Ouais, soyons pas nostalgiques.
Exactement. Exactement. Puis je trouve que la meilleure preuve de ça, c'est la menace des tarifs de 100% que Trump a annoncé en fin de semaine. Parce que, dans le fond, c'est du bullying économique. Parce que si Trump n'est pas satisfait de notre entente de libre-échange avec les États-Unis, c'est pleinement légitime de dire on va renégocier une fois encore, on va le rouvrir. Puis ça, c'est bilatéral, c'est de pays à pays. Là, je comprends l'argument de Donald Trump de dire « Si tu fais un deal avec la Chine va se servir du Canada comme porte d'entrée pour aller dumper du stock aux États-Unis, faire baisser les prix puis attaquer l'économie. » Ça, c'est une prémisse que je peux comprendre. Par contre, de commencer à bullier le Canada pour dire « Je vais décider avec qui tu vas faire des accords de libre-échange ou peu importe le type d'accords commerciaux. » Ça, moi, j'embarque pas là-dedans. Pas tout.
Ouais, tu le vois comment? Moi, j'ai pour mon dire que l'économie va changer. Il y a des pans de l'économie canadienne qui vont changer, qui vont avoir mal, notamment le bois d'œuvre. Mais on n'a comme pas le choix du côté de Carney d'agir comme il a agi, justement parce que faut pas être dépendant d'un Donald Trump qui prend des décisions, des fois, invraisemblable sur un coup de tête.
Oui, ironiquement, Donald Trump est contre la mondialisation. C'est un protectionniste, on le sait. Mais en forçant tout le monde, en brassant tout le monde, puis en n'étant pas... il n'est pas gentil à négocier avec. Il pousse tout le monde à aller faire de la mondialisation.
En effet.
Le Canada, dans le fond, là, à tort ou à raison, là, on était très confortable dans nos vieilles pantoufles américaines, là. Tu sais, c'était facile, là, le libre-échange, les frontières, tout ça. Là, on se dit, hey, t'as peu, là, c'est pas un partenaire qui est fiable puis prévisible. Donc, on va aller voir ailleurs. Fait que finalement, on va aller mondialiser notre économie. Fait que finalement, il nous pousse à faire ce qu'il veut pas qu'on fasse. Puis là, ben, la seule chose qui lui reste, finalement, là, c'est le pouvoir coercitif de dire, je vais te mettre des tarifs sur 100% de ce que tu vas importer chez nous.
Parce qu'il craint le dumping chinois vers le Canada et le Canada vers les États-Unis.
Ben oui, puis ça, c'est quand même légitime, mais ça se contrôle autrement que par des menaces comme ça, tu sais. Puis rappelons-nous tout le temps que les tarifs, c'est les consommateurs américains qui les payent. En fin de semaine, il y avait un super texte de Francis Veil dans la presse qui analysait
tout
ça.
Oui, je l'ai vu.
Il se basait sur une étude allemande qui disait que 96% des tarifs étaient payés par les Américains.
Oui, donc 200 milliards de tarifs que Donald Trump se vante qui sont rentrés dans les coffres des États-Unis, mais c'est seulement 200 millions qui proviennent d'ailleurs que les États-Unis. Fait que c'est le consommateur et les entreprises qui ont payé pour 199,8 milliards de dollars.
Puis, tu sais, le Canada, dans le fond, le réflexe, c'est de dire, ben là, si nous tarifent, nous autres aussi, on va le tarifer. Puis ça, c'était au début de la guerre avec Trudeau, la guerre commerciale. Mais quand tu y penses, finalement, ça devrait être totalement l'inverse. Ça devrait être de dire, nous, on est tellement open for business, pas de tarifs, on baisse peut-être à la limite l'imposition pour les entreprises. Là, je sais que ça va faire lever le poil sur l'épiderme de bien du monde de dire ça. Déréglementer certains domaines pour dire, venez nous voir, venez investir au Canada, faire un peu ce que Trump dit qu'il veut faire, c'est-à-dire stimuler la croissance économique locale puis d'arrêter de faire des échanges avec d'autres pays, mais de le faire au Canada. Puis ça, il n'y a rien qui nous empêche de le faire, puis on a toutes les ressources naturelles ici pour le faire. Il faut juste avoir le courage de dire, au lieu de se combattre à coups de poing sur la gueule, nous autres, on va être plus fins que ça.
David Chabot, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine.
Yes, merci les boys.
Merci beaucoup. Il est 7h54. Denis Gravel qui est là, qui attend pour son tour. On va aller faire un tour du côté de la circulation. Puis, as-tu un petit breaking news dans les dernières minutes?
Si tu parles des remplaçants de Christine Fréchette et Bernard Drainville du côté de leur ministère, en effet, dans les dernières minutes, TVA Nouvelles a appris que c'est Jean Boulay qui va prendre l'économie de Christine Fréchette et c'est Benoît Charrette qui retourne à l'environnement, prend les responsabilités de Bernard Drainville à ce niveau-là. Fait qu'il n'y a pas de nouveau député qui fait son entrée dans le Conseil des ministres. On reste dans la famille qui était déjà établie parce qu'il faut rappeler que les ministres qui veulent devenir chef de la CAQ, dans ce cas-ci, Fréchette et Drainville, devaient abandonner leur poste de ministre.
Parfait. Pour ce qui est de l'accès au pont, ce que je vois, c'est de la rive sud vers la rive nord. Il y a une grosse problématique.
Oui, à ce niveau-là, on est dans l'heure de pointe, je dirais, habituelle. Même chose sur Henri 4 Sud, entre Chauveau-Ouest et Sainte-Geneviève. Là où on est vraiment pire qu'à l'habitude, c'est Capitale-Ouest où, à partir de Beau-Royal, c'est jamé. D'habitude, vers Laurentienne, ça se libère, mais là, ça reste jamé jusqu'à l'autre bord de Robert-Bourassa. Fait que Capitale-Ouest, là, c'est excessivement difficile. Capitale-Est aussi a des problèmes de l'entrée par Henri IV jusqu'à à peu près Robert-Bourassa. Robert-Bourassa, direction sud, là, jusqu'à Wilfrid Hamel, c'est pas mal au ralenti, puis on remonte comme ça jusqu'à Chauveau. La 40-Est, ralentissement important dans le coin d'Henri IV, mais aussi dans le coin de Saint-Augustin-de-Desmaures. Si vous vous en venez vers Québec, là, bonne difficulté à ce niveau-là. Et resterait peut-être à vous mentionner Laurentienne Sud, là où il y a quelques problèmes d'assez haut, là, entre rue Jacques-Bédard et Laurentienne par bout, c'est pas facile.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, ça débute dans 10 secondes.
Le Pit Stop avec Denis Gravel, présenté par